On peut dire d'une part, c'est une sorte, on pourrait voir les choses de manière purement technique, comme une évolution de la bureautique. Hein, on est passé à un moment de la machine à écrire à l'ordinateur, puis on a mis les ordinateurs en réseau, puis on s'est mis à créer des sites internet à destination des usagers, avec qui on a fait de l'internet 2.0, donc on s'est mis à interagir via les sites avec les usagers, on a enregistré toutes les données, et maintenant on est au stade suivant où l'idée est d'exploiter ces données pour déterminer un certain nombre d'actions, donc par exemple d'envoyer automatiquement des lettres de la part de, je crois que ça vient de changer de nom, France Travail, c'est ça ? France Travail qui envoie une lettre parce qu'elle a repéré que dans l'ensemble des demandeurs d'emploi, elle a profilé 5 types de comportements à l'égard desquels elle va mener 5 politiques différentes, ce qui va lui faire 5 types de gestion automatisée et éventuellement des décisions au moment s'il y a des décisions à prendre en termes de sanctions ou en termes de contrôle, etc. Et donc, si vous voulez, c'est un processus qui se fait naturellement sans qu'on pense, par exemple, à consulter des juristes. Parce que c'est juste l'évolution technique suivante. C'est juste disponible dans le tableau de bord du manager. Et si vous ajoutez à ça un très grand appétit et une très grande impatience des pouvoirs publics qui voient dans ces nouvelles techniques et leur généralisation à la fois le moyen de regagner du contrôle effectif sur la réalité qu'ils ont peur d'avoir un peu perdu, et d'autre part de réduire leurs coûts d'administration, puisque l'automatisation évidemment permet l'accroissement des rendements, et d'autre part la logique des informaticiens qui mettent ça en place et qui ont une propension à vouloir tester leurs algorithmes au fil de l'eau, hein, donc en mettant en place déjà des algorithmes qui ne sont pas tout à fait finalisés, en se disant qu'on améliorera au fur et à mesure, qui ont aussi une fâcheuse tendance, une tendance en tout cas qui se révèle fâcheuse à nos yeux, nous juristes, c'est d'appliquer des critères comme la loi de Pareto, la fameuse loi des 80-20, donc en considérant qu'un algorithme qui répond correctement dans 80% des cas, c'est formidable, alors qu'évidemment, il suffit que je vous dise ça pour que tout de suite nous pensions aux 20% des cas, et si on a 60 millions de Français concernés, 20% c'est quand même 12 millions, et si on doit faire 12 millions d'erreurs dans les décisions et qu'on doit ensuite gérer les recours et les dégâts, etc., c'est une catastrophe. Donc il y a là des cultures qui ne se sont pas forcément rencontrées, qui doivent se rencontrer de plus en plus. C'est le cas, mais ça explique que, on ait des difficultés qui sont apparues. Et j'aurais aimé vous apporter. Alors, comment ça va marcher ça ? J'aurais aimé vous apporter ce livre. J'aurais aimé le donner à Denis. Le seul problème, c'est que l'éditeur n'a pas totalement terminé de le fabriquer. Mais donc, il était censé sortir de presse au début de ce mois. Si j'avais discuté avec Denis avant, j'aurais choisi sans doute un autre titre. Mais en gros, on voit là le type de problème. On va étudier tout un tas de situations qui vont bien au-delà de ce dont je vous parle maintenant et dans lequel il y a des problèmes qui sont posés par la rencontre de l'intelligence artificielle avec les règles du droit positif. Et notamment dans les questions des décisions administratives, je citerai, parce que ce n'est pas tout à fait le sujet central, je me limiterai à deux évocations rapides d'affaires qui ont quand même pris des proportions assez importantes. L'une, c'est un algorithme de détection des fraudes aux allocations familiales aux Pays-Bas, qui a été mis en place en 2013 et dont il a été révélé que, en réalité, c'était campagne d'une ONG bien connue, qu'il a appelé l'algorithme xénophobe, puisque cet algorithme ciblait tout particulièrement les familles pauvres et les familles d'origine étrangère, auxquelles non seulement les allocations familiales étaient supprimées, mais qui devaient rembourser celles qu'ils avaient perçues, et alors qu'il y avait un taux d'erreur tout à fait important, et effectivement un ciblage de certaines catégories particulièrement vulnérables de la population, à tel point que le gouvernement de Mark Rutte aux Pays-Bas est tombé en 2021 sur cette question, pour se relever quand même assez vite. Mais donc pour dire que on ne joue quand même pas avec ces algorithmes, il faut quand même faire un peu plus attention que ce que dans l'enthousiasme de l'époque, on a fait ces derniers temps. D'ailleurs, vous le savez, une polémique est en train de se développer à propos de l'algorithme de la CAF, qui accorde donc la Caisse d'allocation familiale en France, donne également un score aux différents bénéficiaires, un score de risque en fait, c'est le langage consacré dans ce domaine-là, quel est le risque de fraude, et qui là aussi est mis en cause par certains observatoires de la société civile, donc c'est une affaire à suivre. Une autre affaire peut-être moins connue, mais encore plus spectaculaire, c'est un logiciel qui lui repérait les détournements de fonds au niveau de la poste britannique. C'est un logiciel qui avait été mis au point par la firme japonaise Fujitsu et qui portait le nom d'Horizon et qui a été mis en place par la poste britannique en 1999 et sur base duquel pas moins de 736 agents ont été sanctionnés pour détournement de fonds. Allant évidemment du licenciement jusqu'à la condamnation pénale, en ce compris des peines de prison ferme. Or, une enquête approfondie a montré que ce logiciel avait des bugs, et ce, dès le départ, que la Poste le savait, qu'elle l'a quand même mis en place, et cela a provoqué évidemment un scandale, mais aussi la Poste a dû transiger avec 550 des 736 personnes sanctionnées, et la Court of Appeal a renversé pas moins de 50 condamnations entre 2019 et 2021, renversé des condamnations pénales, et en réalité l'affaire n'est pas finie, parce que j'ai encore vu il y a quelques jours dans la presse qu'on mentionnait encore des choses. Donc c'est considéré comme le plus grand scandale de la justice répressive britannique. Donc on voit évidemment qu'on joue avec ces applications industrielles. Quand on commet des erreurs, on commet également des erreurs industrielles qui provoquent des dommages industriels et qui font que, qui me font penser à une conclusion tout à fait simple, c'est que il faut être un peu prudent et ce serait pas mal que les administratifs, les ingénieurs, les informaticiens parlent un peu avec les juristes pour savoir ce qui peut être fait et ce qu'il vaut mieux éviter. Alors, justement, qu'en est-il de la situation rapidement en France ? Ben, j'imagine que vous la connaissez, c'est pas l'objet, mais je ne peux pas ne pas la rappeler. Très rapidement, la France, on voit d'ailleurs du coup que c'est pas du tout un phénomène récent, puisque la loi informatique et liberté de 1978 avait interdit les décisions automatiques. Et cette idée a été complètement renversée par une loi de 2018, donc ça a quand même tenu 40 ans, qui, elle, donne une autorisation générale à l'administration de recourir à ce type de procédé. Mais attention, il y a des garanties en France. Pour moi, je dois le dire, alors je parlais avec des collègues français qui sont pas d'accord forcément avec moi, mais bon, je vous livre mon avis. Je pense que la France est en pointe par rapport aux garanties qu'elle fournit, et ce par rapport à d'autres pays voisins. Alors, notamment, et quelque chose qui me semble important, c'est les explications qui sont à donner.